le dossier dans mon ordinateur où j'ai les notes de mes messages. Et j'ai vu que dans les deux, trois premiers messages que j'avais prêchés en arrivant ici à Moutier, à l'époque où il y avait encore une chaire en bois dans le coin dans laquelle j'étais un peu prisonnier et pas trop à l'aise, mais quand même, voilà. Et dont le titre était « Décaper notre évangile ». C'est quelque chose que j'ai repris souvent après, c'est même dans un de mes livres. Et je repensais à ça parce que j'ai eu récemment plusieurs discussions avec différentes personnes, plutôt des jeunes. Et c'était un peu triste parce qu'en fait, en parlant avec eux, et je voyais que ceux qui rejetaient, ce n'était pas l'évangile, c'était la mauvaise image de l'évangile. Comme j'aime à le répéter, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas l'erreur ou le mensonge, c'est la contrefaçon. Parce qu'une chose qui est fausse, elle est fausse, une chose qui n'est pas vraie. Mais quand on pense qu'on connaît quelque chose, et ce n'est pas la réalité, hein, et c'est tellement triste de voir comment les mots ont été vidés de leur sens et remplacés par un autre sens. Et quand on dit évangile, ou quand on dit église, ou quand on dit chrétien, et qu'on parle avec des gens qui ne sont pas, formatés dans le vocabulaire des églises évangéliques, c'est très triste de voir ce que, pour eux, revêt ces expressions. Hein. Et je crois que c'est une des choses dont on a besoin, c'est de sans arrêt revenir aux choses simples et fondamentales, et de redécaper, pas juste les mots, mais les réalités des choses. Et pour ça, je pensais reprendre ce texte, ce petit verset, qui se trouve au début des Actes, du livre des Actes, dans le chapitre 2 et verset 42. Alors, je suis tout à fait conscient que ce qu'on appelle la première Église, hein, celle qui est issue de la première Pentecôte lorsque l'Esprit Saint a été répandu à Jérusalem, les formes de cette Église et ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose qui s'est passé historiquement une fois. C'était lié au fait que beaucoup de Juifs de toute la diaspora, dans tout l'Empire romain, s'étaient rassemblés et avaient multiplié la population habituelle de Jérusalem par 5 ou 6. Et lorsqu'il y a ces milliers de conversions, eh ben, les proportions sont gardées et ça veut dire que sur 10 nouveaux chrétiens, il y en avait 7 ou 8 qui venaient d'ailleurs dans l'Empire romain. Et là, ils sont tellement bouleversés qu'ils décident de rester. Et ils envoient vendre leurs propriétés, et puis du coup, ils habitent sous des tentes chez leurs cousins, leurs cousines, leurs voisins, leurs amis, etc. Et ça fait une église qui est très particulière. Donc, ce n'est pas le modèle unique ou même le meilleur modèle pour les églises. Mais la réalité de ce qu'ils vivaient, ça, c'est intemporel. Et donc, on a ce verset dans Actes 2, 42 qui dit, en parlant de ces premiers croyants, qu'on n'appelait pas encore les chrétiens, puisque c'est une insulte qui est venue plus tard et qui après a pris d'autres sens. Hein. Simplement, c'était les disciples de ce bonhomme Jésus-là que certains disent qu'il est ressuscité. Quoi. Et il dit ceci. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Persévérer, c'est quand même un verbe qui est fort. Hein. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait tout seul, même s'il le faisait de cœur, avec passion, mais il est dit qu'il persévérait. Et je regardais un petit peu le sens de ce mot dans le texte original. L'idée, c'est adhérer à quelque chose de tout son cœur. Hein. Être dévoué et constant à quelque chose, être constamment attentif, donner un soin incessant. Donc il y a à la fois une idée d'intensité, de désir de rester, de s'approprier, d'être avec. Hein. Donc une intention forte qui se traduit par des choses concrètes. Et donc dans les différents points qu'on va voir, il est dit qu'il persévérait dans ces choses-là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans les prières. Donc il s'attachait fortement à ces choses-là. Nous sommes des humains et nous vieillissons. Nous ne sommes pas comme Dieu. Dieu est jeune. Hein, il est infini, mais il est jeune. C'est-à-dire que chez Dieu, il n'y a pas d'usure. Je suis toujours frappé comment quelque chose qui me touche, qui me bouleverse dans le bien comme dans le mal, alors on pourrait dire par rapport au mal, c'est bien, hein, mais avec le temps, ça s'atténue. Hein. Dans tous les domaines, depuis les choses les plus banales, on découvre un nouveau morceau de musique, par exemple, on l'écoute, on est transporté, et on l'écoute encore, et à chaque écoute, on est un peu moins transporté, et puis, quelques temps après, il ne nous dit plus rien. Alors peut-être on peut l'oublier, le redécouvrir. Hein. Et c'est comme ça de tout sur Terre. Pour nous, les humains, qui sommes soumis au temps, à l'espace et au temps, il y a usure. Et c'est pour ça que nous vieillissons, et c'est pour ça que Dieu, lui, ne vieillit pas, et Dieu reste jeune. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque nous sommes encore pas trop usés, que nous sommes enfants, un enfant, je suis sûr que tu peux apprécier ça, Laurent, un enfant peut rire de la même blague 300 fois d'affilée. Parce qu'il ne rit pas parce qu'elle est nouvelle, il rit parce qu'elle est rigolote. Et deux minutes après, elle est autant rigolote que deux minutes avant, donc il continue de rire de la même chose. Hein. Et si on était comme Dieu, on pourrait rire pour l'éternité des mêmes blagues, parce qu'il n'y a pas d'usure, mais on n'est pas comme Dieu, et on s'use. Et donc, on doit découvrir, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on fait face à l'usure du temps, la persévérance. C'est pour ça que Laurent a fait un groupe où il persévère dans ses blagues. Pour, hein, non. Et là, donc, il est dit, il persévérait dans ces choses-là. Alors, l'enseignement des apôtres, je ne vais pas développer ce point ce matin, je vais développer le deuxième, hein, pour que vous n'ayez pas peur que ça va durer 4 heures. L'enseignement des apôtres est une des choses essentielles. Nous avons eu une réflexion pendant plusieurs années avec les responsables de l'Église sur qu'est-ce qui fait que quelque chose... Enfin, qu'est-ce qui est indispensable pour que l'Église soit l'Église et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et puis, on avait pris la métaphore d'une voiture, hein. S'il n'y a pas de toit sur une voiture, ça peut toujours être une voiture. Parce que dans un pays où il ne pleut jamais et où il ne fait pas trop chaud, on pourrait rouler sans toit. Si une voiture n'a pas de roue, ce n'est plus une voiture, parce qu'il faut qu'elle se déplace, etc. L'Église, il y a beaucoup de choses qui sont culturelles, il y a des choses qui sont liées aux circonstances de l'endroit où on vit, du moment, de la culture, mais il y a des choses qui sont indispensables. Hein. Et là, dans ces quatre choses, on a... ce qui fait que l'Église, le corps de Christ, la réalité biblique, là j'utilise des mots, mais bon, sans ça, ce n'est pas l'Église. Et la première chose, c'est l'enseignement des apôtres. Et comme j'ai dit, je ne vais pas le développer, mais il nous faut savoir que l'intuition est importante, la spiritualité, tout ça, je vais en parler, mais la connaissance de la pensée de Dieu est indispensable parce qu'elle est étrangère à notre cœur. Et d'ailleurs, l'essentiel de la pensée de Dieu, c'est justement la notion de grâce, qui, c'est pas naturel à l'être humain, la grâce. Nous, non. Celui qui fait bien, comme l'a dit Marc-André tout à l'heure, hein, il est malade, ben, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Et puis, ceux qui travaillent dur méritent quelque chose, et ceux qui ne travaillent pas, ils ne méritent rien. Et puis, ça, c'est humain, c'est normal pour nous. Dieu est différent. Et donc, l'enseignement des apôtres, on a besoin d'étudier la pensée de Dieu, pour apprendre à penser comme Dieu, et c'est le squelette du corps de Christ, on va dire. Hein. Si on n'a pas cette ossature-là, on n'a pas de structure, on n'a pas de... alors c'est Dieu est amour, et puis on devient des mollusques, hein, des concombres des mers, j'ai déjà dit. C'est le sommet du mollusque, parce que c'est à la fois un mollusque et un légume, hein, le concombre des mers. C'est le chrétien qui ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres. Et c'est le travail de toute une vie, continuer de fortifier notre squelette, de prendre ce qui fait que nos os ne deviennent pas de la guimauve. Hein. Mais ce n'est pas mon sujet. Deuxièmement, il persévérait dans la communion. Et j'ai regardé, en fait, c'est intéressant, en voulant nous aider, les traducteurs ont rajouté un mot. Ils ont mis communion fraternelle. Le mot fraternel n'y est pas dans le texte original. L'idée est bien celle-là, hein, dans la communion, c'est les relations. Mais le fait qu'il n'y ait pas fraternel est intéressant parce que, en fait, je pense que lorsque l'auteur est inspiré par le Saint-Esprit a écrit la communion, en deuxième point, il ne parlait pas que de la communion qu'on appelle fraternelle. Je fais une toute petite parenthèse parce que j'entendais récemment une dame féministe, j'ai oublié son nom mais que j'aime beaucoup, en France, et qui militait pour qu'on change la devise française parce que liberté, égalité, fraternité. Puis elle disait fraternité, c'est les frères, et puis il n'y a pas les femmes. Alors il faudrait qu'il y ait aussi sororité. Je disais, tiens, c'est intéressant. Mais en fait, ce que cette dame a oublié, c'est que fraternité, ça ne veut pas dire frère, ça veut dire issu de la même fratrie, garçon ou fille. Hein. Donc, quand vous entendez fraternel, d'ailleurs on l'accorde, hein, on dit la communion fraternelle, ou les liens fraternels, parce qu'en français, c'est comme ça, c'est le masculin qui... Hein. Mais ce n'est pas juste les hommes hein, fraternels, c'est ceux qui sont dans la même fratrie, ceux qui ont les mêmes parents, hommes, enfin, enfants et garçons et filles, voilà. Donc la communion, c'est pas que la communion fraternelle. Mais pourquoi ils ont mis fraternelle ? Parce que en fait, ce qui fait que les relations dans le corps de Christ, dans l'Église, quand elle est ce qu'elle devrait être, est différente d'un club, c'est que justement, dans un club de foot, de musique, d'échecs ou de ce que vous voulez, on se rassemble par affinité. Tous ceux qui aiment la musique classique, tous ceux qui aiment le foot, tous ceux qui aiment les échecs, tous ceux qui aiment rien et qui se retrouvent ensemble, c'est aussi un club. Voilà. Hein. L'Église, c'est une famille, et on le sait, pour tous ceux qui ont des familles nombreuses, ben les enfants sont différents les uns des autres. Et vous avez un enfant qui aime les sports de combat, l'autre qui est non-violent, il y en a un qui mange que de la viande, l'autre qui est végétarien, il y en a un qui aime le foot, il y en a un qui le déteste. Mais ils vivent dans la même maison, en tout cas pendant un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de la même fratrie, ils ont le même sang et ils ont les mêmes parents. Et d'ailleurs, si c'est les enfants qui ont été adoptés, ce n'est pas une question de sang, dans le sang génétique. Hein, ils sont dans la famille. L'Église, au départ, quand les premiers croyants... Jésus a choisi ses 12 disciples. Hein, il a pris un peu... Comme, on ne dira pas au hasard, bien sûr, mais il n'y a pas une raison pour nous évidente pourquoi lui ou l'autre. Voilà, il choisit ses 12 disciples. Par la suite, ceux qui acceptent ce qui va être dit dans les premières prédications des apôtres, ben, ils viennent, et ben là-dedans, il y avait qui y avait. C'était pas tous ceux qui... Alors oui, ils étaient tous juifs, donc au départ, il y avait une unité culturelle. Hein. Ce qui va compliquer, c'est que d'ailleurs, dans les églises, par la suite, il va y avoir des juifs et des non-juifs. Et là, c'est encore plus compliqué. Mais c'est le même principe. Ils deviennent enfants de Dieu, ils ont la même famille, et ils vivent ensemble la fratrie. Et il y a un verset de l'apôtre Jean qui parle de ça et qui est magnifique. C'est un verset que j'aime beaucoup, dans une lettre que j'aime beaucoup, peut-être une de mes préférées, hein, la première épître de Jean, 1 Jean 1,3. Et il dit ceci, « Ce que nous avons vu, donc lui il fait partie de ceux qui ont été avec Jésus, qui ont vécu ces choses-là, il était là à Jérusalem à ce moment-là, hein. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Ce même mot. Hein, je vais l'expliquer un petit peu après. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il ne le rajoute pas, mais c'est sous-entendu par le Saint-Esprit. Nous voulons vous dire ce que nous avons vu, connu, afin que nous soyons en communion dans la fratrie. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. La différence entre les enfants de Dieu dans le corps de Christ, c'est que ce n'est pas, comme je l'ai dit, juste des gens qui se rassemblent parce que c'est des supporters de telle idée ou de telle autre idée, c'est que nous avons spirituellement une génétique commune, une famille commune, nous sommes devenus les enfants du même père et nous allons vivre dans la même maison. Ce qui ne veut pas dire qu'on va devoir devenir tous pareils, au contraire, Dieu n'a jamais voulu l'uniformité dans aucun domaine, hein. Mais on va vivre ensemble. Seulement, on ne va pas vivre ensemble sur le fait qu'on est tous de droite en politique ou tous de gauche ou qu'on aime tous cette musique-là. On vit ensemble sur le fait que je suis en communion avec le Père et avec le Fils par l'Esprit qui vient en moi. Et du coup, je suis en communion avec Pilar qui est en communion avec le Père et avec le Fils par le Saint-Esprit et avec Geneviève et avec Marc-André et avec tout le monde. Et aussi avec ceux qui sont sur Zoom d'ailleurs. Le Saint-Esprit peut faire ça aussi. Donc c'est ce qui est particulier, la communion. Et si l'enseignement des apôtres c'est le squelette du corps de Christ, la communion, et je ne dis pas fraternelle exprès, parce que la communion avec Dieu et avec les humains, dans son ensemble, c'est la chair du corps de Christ. C'est ce qui se voit, c'est ce qui donne, c'est ce qui fait que c'est vivant aussi. Hein. Un squelette, ben, ça ne sert à rien tout seul, mais bon, si on n'avait pas de squelette, on serait comme les limaces. Et on a besoin des deux. Donc le squelette, il ne se voit pas, mais il doit être là, et on doit y travailler, on doit y persévérer. Mais la communion, elle est là au centre de ce petit texte-là, parce que c'est la base de tout. Si je n'ai pas de communion avec Dieu, si je n'ai pas de communion avec les frères et sœurs, dans la famille, dans la fratrie de Dieu, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, toute cette épître de Jean, ce que Jean va développer à la façon de la pensée juive par petits cercles qui reviennent encore et encore et encore, c'est que ce qui fait qu'on est en communion avec les humains, c'est qu'on est en communion avec Dieu. Mais ne dites pas que vous êtes en communion avec Dieu si vous n'êtes pas en communion avec les humains. Parce que si vous êtes en communion avec Dieu, ça va impliquer que vous êtes en communion avec les humains. Et puis, il tourne autour de cette idée. Hein. Mais en rappelant toujours, au milieu de ce livre, il y a ce verset clé. Hein, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Hein. Donc l'initiative de l'amour vient toujours de lui. Mais alors que nous persévérons à rester attachés à lui, nous recevons cet amour, les autres humains qui sont aussi attachés à lui reçoivent cet amour, et il y a une dimension horizontale qui fait que cet amour circule entre nous, et c'est ce qui fait que sans aucun plan d'action, sans aucune stratégie, sans rien d'autre, cette bonne nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout l'Empire romain. On ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Jusqu'à ce que, bien sûr, le diable n'est pas inactif, il sait, hein, quand on ne peut pas arrêter quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On le légalise et par là, on le tue. Et donc, lorsque le christianisme est devenu la religion d'État, ça avait commencé avant, parce qu'on est humain et que tout s'use. Mais c'était vraiment le début de la fin. Parce que tout d'un coup, ça devenait politique, et il y avait le pouvoir qui était là. Et puis, alors que le royaume de Dieu, j'ai entendu cette phrase la semaine dernière dans une prédication que j'écoutais, le royaume de Dieu, c'est la victoire du pouvoir de l'amour sur l'amour du pouvoir. C'est notre sujet. Mais à partir du moment où le christianisme est devenu pouvoir, puissance, autorité, contrôle, c'est plus la bonne nouvelle, c'est plus l'évangile. Et c'est pour ça qu'on doit décaper et revenir à l'enseignement des apôtres et la communion. Communion avec le Père, avec le Fils et entre nous. Le mot communion, moi, vous savez que j'utilise beaucoup le terme être connecté, hein, être en connexion avec Dieu, parce que c'est un terme d'aujourd'hui qu'on comprend. Voilà, nos téléphones sont connectés ou pas à la 4G, à la Wi-Fi, etc. Mais quand vous lisez communion dans la Bible, c'est être connecté à. Hein, c'est vraiment un synonyme quasi parfait. Donc, notre connexion est avec le Père et avec le Fils, par le Saint-Esprit qui vient en nous, et elle est les uns avec les autres. Et donc, l'étape d'après, c'est la fraction du pain. La fraction du pain, ce n'était pas juste manger ensemble, c'était manger ensemble, mais c'était aussi que pendant le repas qu'ils partageaient, donc le repas comme on mange tous les jours, ils prenaient ce qu'on appelle la communion, la Sainte Cène, le repas du Seigneur, peu importe les expressions religieuses qu'on a mis dedans. Simplement, c'était ce mémorial que Jésus leur avait laissé. Hein. C'est un support de mémoire. Aujourd'hui, on utilise des clés USB comme support de mémoire, où on a des disques durs dans les ordinateurs ou dans les téléphones. Et Jésus a utilisé le même principe. Il a associé une pensée, une valeur, quelque chose, une vérité, avec quelque chose de matériel et de concret. Tant que les êtres humains existeront, ben normalement, on doit se nourrir, on mange. Et donc, ce qui était à l'époque les éléments essentiels dans le repas, bon, en plus, il y avait le côté dans la tradition, pas la tradition, mais l'enseignement juif, qui était un peu particulier avec la Pâque, mais en tout cas, dans le repas, il y avait le pain et il y avait le vin. Et puis, il dit, voilà, prenez ça en mémoire de moi, avec toute la symbolique qui va derrière. Hein. Et donc, ces gens-là, parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, parce qu'ils étaient connectés à Dieu et aux frères et sœurs, ils avaient aussi cette vie en commun qui faisait qu'ils mangeaient ensemble, ben souvent, parce que ça c'était lié à ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, à la constitution particulière de cette église, mais ils persévéraient là-dedans, ce qui veut dire qu'ils étaient en lien les uns avec les autres. On avait une pastorale sur Zoom cette semaine pour notre association d'église, et le constat qui a été fait par l'un des pasteurs, parce qu'on a tous, il y avait plusieurs choses, mais une des choses c'était de donner des nouvelles des églises, quoi. Et en fait, le constat qui a été fait par l'un des pasteurs à la fin de tous les retours, c'est que les églises qui sont basées sur « on se retrouve le dimanche matin », quand le Covid arrive, ouf, dur, dur. Mais les églises qui étaient basées sur « oui, le dimanche matin, on se retrouve tous pour faire la fête », c'est important, et pour l'enseignement aussi, hein, l'enseignement des, transmis depuis les apôtres, qu'on essaie de continuer de partager, mais les églises qui sont basées sur des petits groupes qui vivent la communion là où ils sont localement, ben, le Covid, c'est pas cool, c'est pas sympa, ça limite, mais ça n'empêche pas, on continue. Hein. Donc voilà, il y a une réflexion qui est intéressante là-dessus aussi, c'est que cette façon qui était quand même la première de vivre l'église fait qu'elle est beaucoup plus souple et qu'elle s'adapte beaucoup plus dans certains pays, malheureusement, aux persécutions. Ici, à la situation sanitaire, qui n'est pas une persécution ou une malédiction, mais qui est une situation qu'on subit, et à d'autres choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous arriver. Parce que s'il n'y a pas de communion entre les membres du corps de Christ, c'est sûr que quand on arrête de se retrouver dans un local le dimanche matin, tout s'arrête. Mais si on a persévéré dans la communion les uns avec les autres, alors ça continue. Fraction du pain et dans les prières. Et je ne vais pas le développer ce matin, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. La prière, je rappelle juste quand même que ce n'est pas juste présenter notre liste de courses à Dieu. Seigneur, on te prie pour touk 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 et pour touk 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 touk. Amen. Oui, il y a la prière d'intercession qui est une réalité, mais qui doit être d'abord quelque chose qui est vécu dans le cœur avant d'être des mots. La prière, c'est être justement en communion avec Dieu et plus spécifiquement dans la conscience de cette connexion, parce que on est toujours connecté à Dieu. Mais dans la prière, je prends conscience de cette connexion, où je m'en saisis aussi par la foi, il y a les deux, hein, parce que Dieu est là, et je suis conscient de ça, même si je ne ressens rien émotionnellement, et je présente ma requête, les personnes, etc., je les inclus dans cette conscience de la présence de Dieu, avec ou sans mots, et puis il y a tous les autres aspects de la prière, qui est justement... Ce que moi j'appelle en tout cas la spiritualité, hein, qui devrait être l'essentiel de nos vies chrétiennes, où voilà, on est connecté avec Dieu, et puis on médite là-dessus, et on met du bon grain à moudre dans nos pensées, qui vient de l'enseignement des apôtres, et puis qui nous permet de vivre cette communion personnelle à ce moment-là aussi, puis aussi dans les moments ensemble. Donc vous voyez, on a tous ces éléments-là, mais je voulais insister sur la communion et communion fraternelle de la même fratrie ce matin, parce que je crois que c'est particulièrement ce qui est important dans cette période, mais sans oublier le reste. On doit persévérer dans toutes ces choses-là ensemble. Et c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est qu'on trouve dans le christianisme historique, en général, des groupes qui prennent qu'une partie. Hein. Il y a ceux qui sont sur l'enseignement, la doctrine, la théologie. Hein. Communion, ils ne savent pas trop ce que c'est. Les gens, c'est ces trucs qui sont là autour et qui font des choses. Mais moi, c'est la théologie et puis il n'y a que ça. Puis on rencontre aussi beaucoup de gens qui sont en recherche d'une spiritualité, mais alors elle n'a pas de squelette. Et puis on tombe vraiment dans le grand n'importe quoi des fois. Hein, ou alors dans le wellness pas spirituel. Dieu est une force qui existe pour que je me sente mieux. Bof. Voilà. Donc on a besoin de tout ça ensemble et on a besoin les uns des autres. Et je profite juste, je termine avec ça, hein, donner ce petit témoignage personnel. La plupart d'entre vous le savent. Je suis en train de retaper une vieille maison. Et je suis très, très, très touché par le nombre de gens qui m'aident, qui m'appellent, qui pensent à moi, qui passent, qui viennent voir, qui... Si tout le monde qui m'a dit qu'il voudrait m'aider pouvait venir en même temps, et pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que j'ai dit pour le moment non, et on ne peut pas tout ça, on serait plus nombreux que le dimanche matin dans ma maison. Et ça me fait plaisir, et ça a même touché mon banquier qui m'a dit « Vous n'avez pas les comptes en banque les plus fournis que de mes clients, mais vous avez un sacré réseau d'amis autour de vous. » J'ai dit, chacun est riche de ce qu'il veut, de ce qu'il peut. Je suis fier de ça. Et c'est ça la réalité de l'Église. Et c'est un témoignage déjà en lui-même. Alors je vais vous laisser un petit défi pour cette semaine. Il n'y aura pas de contrôle, on ne vérifiera pas si vous l'avez fait, pas fait, etc. Il y a pas de, voilà, c'est entre nous et Dieu. Mais j'avais envie quand même un petit peu de vous défier avec ça. Comment vous pourriez vivre la communion dans la fratrie de Dieu cette semaine d'une façon dont vous n'avez jamais vécu avant. Quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais fait. Alors, vu qu'on est tous différents et qu'on fait tous des choses différentes, je ne peux pas vous dire à quoi ça peut ressembler, hein, mais placez-vous devant Dieu, demandez-lui qu'il vous conduise, et puis bah, c'est une façon de sortir un peu de notre confort, tout en persévérant dans ce que vous faites déjà, hein, parce qu'on doit toujours persévérer. Mais c'est, tiens, est-ce qu'il y aurait quelque chose... Une autre façon de vivre cette réalité. Et ça commence par se connecter à Dieu. Parce que rappelez-vous, la communion dans le corps de Christ, c'est parce qu'on est en communion, elle est avec Dieu, avec Christ, par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on est en communion les uns avec les autres. Seigneur, merci pour tes pensées qui sont au-dessus de nos pensées, pour ta façon de penser et d'agir qui nous dépasse, qui n'est pas naturelle pour nous. Et nous te demandons que tu nous apprennes toujours plus que ces situations particulières que nous vivons, qui ne sont pas agréables, qui sont tragiques pour certains, nous permettent de découvrir mieux, de décaper notre évangile, de revenir à l'essentiel et d'apprendre à vivre en communion avec toi, les uns avec les autres, avec tes pensées, et de le manifester dans le partage et dans la prière. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais en ces temps. On te remet tous ceux qui passent par des moments difficiles et que tu sois avec eux et que là aussi la fraternité soit pas juste un mot mais qu'elle se traduise par des actes concrets. Que notre superflu pourvoie au nécessaire des autres et aussi relationnellement que nous restions en communion, connectés les uns aux autres et avec toi. Amen.